Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 31 octobre 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 1er novembre, fête de tous les saints, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ami de la Reconquête, bonsoir. Tout va bien. Il n'y a pas de problème d'insécurité. C'est Jospin qui l'a dit, vous avez entendu. Le type qui a mitraillé 4 personnes, qui a tué 4 personnes et qui en a blessé 7 à Tours à coup de fusil, ça n'a rien à voir avec l'insécurité. Ça veut dire que quand un type peut se balader en voiture avec un fusil, une cagoule sur la tête, en tenue de close combat, enfin en tenue de treillis militaire, et en plein plan Vigipirate, sortir au cœur d'une ville et mitrailler les gens, ça n'a rien à voir avec l'insécurité. On se demande vraiment à quoi sert le plan Vigipirate.
Oui, mais Serge, on n'était pas en situation d'insécurité, puisque je peux vous garantir qu'ils ont fouillé le personnage et ils n'ont trouvé sur lui aucune licence de pilote.
Oui, c'est vrai. Alors, le type en question, il est fou. C'est un fou furieux. Bon, d'abord, pour faire ce qu'il a fait, il faut être fou. Sous réserve qu'on identifie les gens qu'il a tués, parce qu'après tout, c'est peut-être pas si fou que ça. Mais il paraît qu'il est fou. Et ce type qui est fou, il était inscrit dans un club d'arts martiaux, alors que si vous avez le moindre problème de santé, vous pouvez pas vous inscrire. Et en plus, il avait une licence de tir, il était inscrit dans un club de tir. Si vous appartenez au Front National, vous pouvez pas vous inscrire dans un club de tir. Mais si vous êtes complètement givré, que vous sortez de l'asile pour une permission de 2 heures, vous avez le droit de vous inscrire et d'acheter toutes les armes que vous voulez. C'est bien, hein.
Voilà. Et d'ailleurs, ils ont même précisé qu'il y a 30 ans, il avait fait un court passage dans l'infanterie de marine, qui, comme chaque assez, rend fou. J'ai même une autre hypothèse. Je peux vous dire qu'à l'âge de 7 ans, il a mangé de la glace au chocolat, et il faut bien vérifier, mais je suis à peu près certain que tous les serial killers, pour parler moderne, ont mangé de la glace au chocolat.
Enfin, lui, c'est un serial killer en 10 minutes. Ça, d'habitude, les gars, ça leur prend plus longtemps que ça. Bonsoir, monsieur Olindre.
Oui, bonsoir.
Si vous approchez du micro, ça sera mieux. Je sais que vous n'avez pas besoin d'être près du micro.
Je suis content d'être là ce soir, et je t'écoutais parler de ce tueur-là. Bon, et il est bien sûr et certain qu'on nous rebat les oreilles avec le plan Vigipirate renforcé. renforcer. Bon, moi, je suis entièrement d'accord, parce que si on veut lutter contre le terrorisme dans ce pays, ça ne se fera pas très, très, très facilement. Et il faudra certainement rétablir un certain nombre de valeurs qu'ils ont mis à la poubelle et commencer par fermer les frontières. Ils en arriveront là. J'entendais tout à l'heure que peut-être, hein, on pourra fouiller les voitures et faire ouvrir les coffres, mais si les gens sont d'accord. Oui. Si les gens sont d'accord. Bon, alors, le jour où les Français auront compris que ça n'est pas de la rigolade, hein, et que, par exemple, on peut quand même s'étonner que quand le plan Vigipirate, renforcé, est mis en place, hein, deux loustiques prennent un hélicoptère et vont chercher un copain en prison, hein, que des gens, hier, hein, ou avant-hier à la télévision, on les voit qu'ils survolent avec un petit avion, hein, la Hague, sans que rien n'intervienne, on se demande si on se fout du monde.
Eh bien,
le gouvernement se fout du monde, mais il a bien raison tout compte fait, puisque ce peuple, je ne sais pas ce qui va les réveiller. Alors chaque fois que nous disons quelque chose, nous passons pour des extrémistes, même si on parle, nous, uniquement de choses que l'on connaît. Hein, j'entends tout un tas de types qui parlent de choses que je ne connais pas. Je trouve que c'est intéressant, mais dès que je connais, je m'aperçois qu'ils ne disent que des balivernes, que ça ne tient absolument pas la route. Mais on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Au lendemain de l'attentat à New York, j'avais sorti un communiqué pour le Cercle National des Combattants, en devant des très graves événements qui se déroulent aux États-Unis, au cours desquels le terrorisme a dépassé tout ce qui était pensable jusqu'à aujourd'hui. Les anciens combattants du Cercle National des Combattants tiennent à poser la question suivante à nos dirigeants politiques, adeptes de la repentance éternelle, qui laissent insulter impunément l'armée française pour son comportement face au terrorisme lors de la guerre d'Algérie. Pour trouver les auteurs et commanditaires de ces terribles attentats, les forces américaines vont-elles faire des prières, émettre des vœux pieux, réciter des poèmes aux suspects? Nous attendons la réponse. Bon, ça, c'est même pas daté du lendemain, c'est daté du jour même des attentats. Le 11 septembre 2001. Alors c'est quand même un peu étonnant. Ce communiqué a été envoyé à toutes les agences de presse et à tous les journaux. Il n'a absolument été repris par personne. Alors qui a fait ce communiqué? C'est moi qui l'ai signé. Je suis président de cette association d'anciens combattants. J'ai fait l'Indochine, j'ai fait l'Algérie. Je suis ancien résistant. Bon, j'aurais pissé dans un violon. C'est exactement la même chose.
Ça date du
11 septembre, ce qui nous empêche pas d'entendre à longueur de journée, hein, des gens qui nous racontent la guerre, qui ne l'ont pas faite, qui nous racontent un tas de choses qu'ils n'ont pas fait. Dans un dernier papier, je disais que j'en avais pas de chez la tête d'entendre Monsieur J'en sais rien à Paris répondre à Monsieur J'en sais pas plus à Washington. Est-ce que tout ça c'est du journalisme? Ça n'est absolument pas du journalisme. Alors la réponse à ma question du 11 septembre, hein, eh bien, elle est dans Le Monde. Oui, dans le journal Le Monde,
du 26 octobre 2001.
Le FBI n'a pas réussi à faire parler les principaux suspects. D'aucuns dans l'administration se demandent s'il ne faudrait pas changer de méthode. Mais enfin, l'armée française qui est insultée, et qui a été insultée depuis, pendant la guerre d'Algérie et depuis la fin de la guerre d'Algérie. Il faudrait quand même savoir une fois pour toutes que ce n'est pas elle qui a déclaré la guerre d'Algérie, pas plus qu'elle n'avait déclaré la guerre d'Indochine d'ailleurs. L'armée a été envoyée au combat et le gouvernement socialiste en place à l'époque lui a demandé de nettoyer Alger parce que des bombes explosaient dans les réverbères, dans les casinos, c'était un dancing. Et des populations civiles étaient hachées par la mitraille que contenaient les obus qui étaient fabriqués par des communistes français qui avaient rallié le parti communiste algérien. Alors il y en a quand même un peu par-dessus la tête que les gens qui racontent n'importe quoi ont toutes les antennes et les gens qui savent de quoi ils parlent, nous sommes caviardés. Lorsque nous disons quelque chose, nous sommes interdits d'antenne. Alors que dit ce journal au FBI et au ministère de la Justice? Je répète, Le Monde, vendredi 26 octobre 2001. Au FBI et au ministère de la Justice, certains commencent à dire tout bas que les libertés individuelles peuvent être mises de côté au moins un temps s'il s'agit d'obtenir des renseignements pour sauver des vies. C'est dans Le Monde. dans le journal Le Monde.
Ça, c'est l'objectif de toute cette affaire. Entre autres, c'est un des objectifs.
L'opinion en train de basculer. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce qu'avait dit Le Pen depuis des décennies, depuis des années et des années? Hein, vous pouvez rigoler de tout ça, mais le jour où ça se passera sur notre sol, ce sont les mêmes qui insultent l'armée française pour la bataille d'Alger qui diront « Mais où sont les paras ?» Où est la police? Où sont les unités spéciales? Parce qu'enfin, il faut quand même, là aussi, savoir de quoi l'on parle. Hein? Si il s'avérait qu'un jour, un ayatollah quelconque fasse rentrer 5000 Kalachnikov ou 5000 M16 dans les banlieues, qui ira les récupérer? Qui ira les sortir? Les caves seront communicantes entre elles, les étages seront communicants entre eux. C'est déjà, dans certains immeubles, ça qui se passe. Alors, prévoir, hein, faire la guerre, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Mais il ne prévoit rien du tout. Alors, je ne vais pas lire tout cet article, mais je demande aux amis de rechercher Le Monde du vendredi 26 octobre, page 4. Le FBI n'a pas réussi à faire parler les principaux suspects. Alors, je vais lire la fin. L'opinion semble déjà en train de basculer. Tiens, c'est bizarre quand même. Pourquoi c'est bizarre? Hein? Notamment sous l'effet de la crainte du bioterrorisme. Même les défenseurs des libertés individuelles changent de discours. L'utilisation de la force peut se justifier dans le cas où les enquêteurs cherchent des renseignements pour éviter une attaque imminente, affirme le Washington Post. Hein? Le journal gaucho américain. Hein? C'est le professeur David Cole, professeur de droit à l'université de Georgetown, qui le dit. Si c'est lui qui le dit, c'est que c'est vrai, il a raison. Le professeur Robert Derville, spécialiste de la lutte antiterroriste à l'université Columbia à New York, trouve justifiée la pression sur les suspects en temps de guerre. Il ne faudrait pas, pour de bonnes raisons, ne pas essayer de trouver ce que savent les gens.
C'est fabuleux.
Moi, je ne suis pas pour la guerre civile. J'ai fait la guerre. Je ne suis ni pour la guerre, ni pour la guerre civile. Parce que la guerre civile, c'est terrible. Mais ce sont eux qui nous ont amené la guerre civile. Ce sont eux qui ont mis en place tout cela. Je suis responsable de la Corse pour le Front National. Hein. Bon, j'y vais de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui met tout en place là-bas. Il n'y a qu'à voir un peu les démêlés entre le ministre de l'Intérieur, M. Vaillant, et M. le Premier ministre. Ces gens racontent n'importe quoi. Mais en ce qui concerne la Corse et les terroristes corses, M. Jox avait traité avec les terroristes. M. Pasqua avait été dans une auberge de la montagne, chanter avec les chefs indépendantistes. Il chantait d'ailleurs une chanson, la boudeuse, une chanson corse que j'aime beaucoup. Lorsque à Tralonka, 600 encagoulés se sont réunis, c'était sous M. Debré. M. Debré était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, et il a autorisé cette réunion. Et les gendarmes avaient ordre, de faire en sorte que les encagoulés trouvent bien la route, et surtout qu'il n'y ait pas d'accident, qu'ils ne se rentrent pas dedans au carrefour.
Croyez peut-être que c'était une rêve partie.
Oui, on croit vraiment rêver. Est-ce que les Français voient tout cela? Enfin, ils ne le voient pas, alors que là, ça n'était pas caché, ils le voient. Ils ne vont pas tirer la leçon de tout ça. Et monsieur Jox, c'est facile de retrouver la date. Je ne l'ai malheureusement pas retrouvée parce que il me faudrait presque quelqu'un pour gérer mes archives à l'heure actuelle. Mais monsieur Jox, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a convoqué à Paris tous les commissaires de police de France. On peut trouver la date, elle est facile à trouver. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là au commissaire de police de France? Il a dit, vous n'êtes pas là pour enrayer la montée de l'islam dans les banlieues. Est-ce que tout ça, ça n'était pas fabriqué? Est-ce que tout ça, ça n'était pas voulu? Alors, lorsque nous avons dit cela, on passait pour des xénophobes, pour des racistes. Mais moi, je sais très bien qu'il y a des musulmans qui s'en détiquent bien. Mais c'est pas moi qui ai laissé venir dans les banlieues tous ces imams venus de pays et qui appartiennent à des castes musulmanes extrémistes. Extrémistes, on donne les noms, dans les journaux d'aujourd'hui, on dit d'où viennent tous ces gens, les trois quarts sont des Pakistanais qui ne parlent même pas français, ou des gens de ces régions du monde qui ne parlent pas français. C'est quand même ahurissant. Il y a trois mois, j'entendais une discussion sur ma radio, j'étais sur la route, et ça se passait dans une banlieue. Bon, Eh bien, il y avait des représentants de Français de souche, comme on dit. Le seul qui a pas dit de conneries pendant une heure et demie, c'était l'imam du coin. Le seul qui a eu un discours intelligent, c'était l'imam du coin. Il y a quand même le curé était couché, comme nos évêques, et l'imam, lui, il savait de quoi il parlait. Il n'avait pas tenu un discours extrémiste, mais il a tenu un discours que les pères de famille pourraient écouter, qu'un catholique bontain aurait pu signer. Moi, j'aurais signé son discours. Alors, quand on a pendant des mois expliqué ce qui se passait dans les banlieues, on passait pour des fous. Quand moi, ici, à cette radio, hein, je disais ce qui se passait en Seine-Saint-Denis, dont j'étais l'élu, je passais pour un excité. On est toujours des excités. À dire la vérité, on est toujours des excités. Alors, raciste, faudra-t-il le répéter pendant 25 ans? Moi, je ne suis pas raciste. J'ai été cité pour mon action envers la jeunesse musulmane en Algérie, hein, où je faisais du bien à cette jeunesse, une fois de plus avec mon pognon. Comme les scouts que je dirigeais ici, c'est avec mon pognon. Moi, aussi loin que je puisse me rappeler et regarder en arrière, hein, eh bien, j'ai toujours travaillé avec mon pognon. Moi, être député, être élu, ça ne m'a jamais rapporté un rond, parce que cet argent, je l'ai toujours mis dans le combat que je mène pour la patrie. Ce que je fais, moi, je le fais pour mon pays, je le fais pour la patrie, au même titre que beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Alors, comment peut-on en arriver à être insulté comme nous sommes insultés? Mais enfin, ces types sont déserteurs, pédés, tout ce qu'on veut, déviants. Ils n'ont aucun droit de monter au cocotier parce qu'ils ont le slip sale, et il n'y a que à la télé, il n'y a que à la radio, il n'y a que qu'on entend, et ils se permettent de nous insulter, de nous cataloguer dans telle ou telle catégorie où nous n'avons rien à faire, strictement rien à faire. Quand nous disons quelque chose, ils prennent une phrase ou un mot, et puis ils en font un tabac. Quand nous ne disons rien, c'est encore plus suspect. On est encore plus suspect quand on ne dit rien. Ah, mais ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Alors c'est interdit de parler, et c'est aussi interdit de penser. Mais on devient fou dans ce pays.
Ça met au diapason, Romain.
Pardon?
Ça met au diapason.
Oui,
si tu deviens fou,
il est bien sûr et certain que... Répétons encore une fois que la guerre civile est la pire des choses qui peut arriver à un peuple. Je répète que je connais en banlieue des gens, quelle que soit leur race ou leur religion, qui se conduisent en français, qui se conduisent bien, qui élèvent leurs enfants, qui sont des gens normaux et travailleurs. Mais ce ne sont pas ceux-là qu'on entend à la télé, ce ne sont pas ceux-là qu'on voit à la radio. Ce sont tous les gens qui crachent sur la France. Hein, quand, par exemple, l'autre jour, nous avons été manifestés contre le maire de Paris, hein, qui déposait une plaque pour les gens qui avaient été tués des gens du FLN qui avaient été tués. Bon, il est bien sûr et certain que quelques journaux, quand même, avaient expliqué que les partisans du FLN avaient été amenés là presque de force, que les listes étaient faites dans les quartiers parce que le FLN tenait les quartiers, que le FLN pressurait les travailleurs algériens en France à cette époque, et que il récupérait l'argent que portaient toutes ces dames et tous ces messieurs porteurs de valises qui sont les amis ou les complices du pouvoir en place aujourd'hui. Alors comment peut-on s'étonner, hein, puisque les jeunes ont la haine? Ils n'ont pas grand-chose d'après eux, mais ils ont la haine. Je ne sais pas d'où elle vient, cette haine, mais ils ont la haine. Ils ont la haine de la France. Bon, ben, la France, elle, par ses médias officiels, dit que la police de Paris a tiré dans le dos des manifestants pacifiques. Mais qui prouve qu'ils ont tiré dans le dos? A priori, tout ce qui a été rapporté, il n'y a jamais eu de gens qui ont tiré dans le dos. Il n'y a jamais eu de policiers qui ont tiré dans le dos. Et il y a eu des cadavres dans la Seine, mais est-ce que c'est le jour de la manifestation qu'il y a eu des dizaines de cadavres qu'on retrouve aujourd'hui dans les registres de la police? Ou est-ce que ce sont les cadavres des Algériens qui ne voulaient pas payer l'impôt du FLN ou des gens du MNA, puisque c'était la guerre à Paris? Qui va expliquer aux Français qu'à cette époque c'était la guerre à Paris, que les commissariats de police étaient derrière des barricades de sacs de sable, que les flics avaient le casque sur la tête, les gilets par balles, que des usines ont brûlé, que des dépôts d'essence ont brûlé? Enfin, mais ce ne sont quand même pas des petits détails, ça. Alors, personne ne le sait, personne ne le dira aux Français. Non, parce qu'il vaut mieux dire que la police de France tire dans le dos des Arabes. Voilà, le jeune qui a pris une balle. Bon, un jeune qui meurt, quelle que soit sa race ou sa religion. Bon, c'est dramatique. Et la mère de ce jeune est venue à la télévision. Mais qu'a-t-elle raconté? Elle a raconté tout, cette brave femme, mais elle n'a pas raconté la vérité. Parce que quand la voiture a foncé sur le flic qui a tiré, eh bien une autre voiture, ou peut-être même la même, avait tué une femme agent de police quelques instants avant. Alors pourquoi déformer les choses? Pourquoi semer la haine? C'est eux, ce sont les médias qui sèment la haine dans les quartiers. Parce que les jeunes, hein, eh bien, on leur a appris d'abord que leur père et leur grand-père ont battu l'armée française. Puisque ça n'est pas vrai, pourquoi leur faire croire que l'armée française a été battue par leur père et par leur grand-père? On pourrait poser la question à ces jeunes. Vos grands-pères et vos pères, d'après vous, étaient tous du FLN et se sont battus contre la France. Alors qu'est-ce qu'il faut ici aujourd'hui? Et vous, si vous vous êtes battus pour que l'Algérie ne soit plus française, qu'est-ce que vous venez emmerder les Français en France? Restez chez vous si vous n'êtes pas bien ici. Parce qu'il est quand même incontestable qu'on pouvait lire la presse française, les seuls journaux qui ont été drastiques vis-à-vis des jeunes qui ont ciblé la Marseillaise, ce sont les journaux algériens. Ce qui prouve, comme je le dis dans mon dernier papier, que ces jeunes ne sont nullement un espoir d'avenir, ni pour la France, ni même pour l'Algérie. D'ailleurs, s'ils étaient en Algérie, ils se feraient triquer. Ils se feraient triquer. Moi, je connais quand même, j'ai été élu, j'ai été député en Seine-Saint-Denis, à Sevran, Villepinte, Tremblay, c'est la 11e circonscription où j'avais été élu. Mais enfin, où sont les taudis? Où sont les taudis dans ces trois villes? Ils ont des appartements de 120, 130 mètres carrés au milieu de plantations d'arbres. Alors, où sont les taudis? Chez eux, dans un appartement de 130 mètres carrés ou 120 mètres carrés, ils seraient 80. C'est la vérité. Il n'y a qu'à aller dans les banlieues, voir un peu les supermarchés, et voir ces braves dames qui sortent des supermarchés avec 2-3 chariots de bouffe. Alors ils sont malheureux, ils meurent de faim. Non, ils ne sont pas acceptés, soi-disant, par la nation française, par les Français de souche, comme ils disent, par les roumis même, comme ils disent. Mais que font-ils pour être acceptés? Qui embauchera un type qui arrive à l'embauche avec une casquette à l'envers, des rouflaquettes, les mains dans les poches, en tangant comme un voyou? Le gars, moi je connais des jeunes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, même des jeunes d'origine africaine, qui s'habillent correctement et qui trouvent un travail correct dans la mesure où ils font correctement leur travail. Ah, moi, lorsque je suis en Afrique, j'entends pas les gens partir au boulot à 4h du matin, alors que j'habite pas loin de l'autoroute, enfin que pas loin, j'habite à 2 km de l'autoroute, et à 5h du matin, l'autoroute ronronne déjà, parce que les Français sont debout, et vont au boulot. Alors comment a-t-on pu faire croire à ces jeunes qu'en ne travaillant pas, ils auraient tout ce que possèdent les gens qui travaillent? Comment aussi a-t-on pu faire croire à leurs parents qu'en envoyant la moitié ou les deux tiers de leur paye en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, ils pourraient vivre ici avec le restant, avec ce qu'ils gardent? Les Français qui vivent ici dépensent la totalité de leur paye et ils ont besoin de la totalité de leur paye et bien souvent même de l'appoint, hein, de la paye de la femme. Hein, il y a deux salaires dans les ménages aujourd'hui. C'est pas ça qui arrange la famille, mais enfin, c'est un fait qu'il faut aussi constater. C'est un fait sur lequel on ne doit pas revenir. Alors comment faire croire constamment à ces jeunes qu'ici, ils sont traités différemment? S'ils sont traités différemment, c'est surtout ceux qui se conduisent comme des voyous. Voilà, c'est pas autre chose. Et je vois mal parti notre pauvre pays. Je vois mal parti notre pauvre pays. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'il arrive une enveloppe avec 5 grammes de farine ou de flan dedans pour que tout s'arrête, pour que les postiers demandent à passer, à être douchés, à être soignés et tout. Et comme ça ne suffit pas pour arrêter la psychose, eh bien, les services compétents mettent 8 jours ou 10 jours pour déclarer ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hein, ça vient de nous arriver au paquebot. Il y avait une enveloppe aussi, il y a eu la réponse 8 jours après. Il faut 8 jours à des spécialistes pour voir que
qu'est-ce que c'est
du flan, je crois, ou de la farine. Mais si ça avait été dit dans la demi-heure, si c'était un produit chimique compliqué à détecter, bon, ben c'est un produit chimique, on va l'analyser. Mais si c'est de la farine, hein, personne ne voit que c'est de la farine ou personne ne voit que c'est du flan. Hein? Eh bien, c'est leur information, surtout, qui est du flan. Et il faudra bien quand même qu'ils se réveillent et qu'ils mettent la France en garde. Et si le terrorisme redémarre, aux États-Unis, on annonce que ça va redémarrer, si le terrorisme redémarre, hein, eh bien, il faudra fermer les frontières, contrôler les gens. Mais contrôler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, jour et nuit. Et puis faire attention aux jours de fête. Et puis faire le calendrier de tous les attentats sur la planète dont ce sera l'anniversaire. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 500 ans, hein, il s'est passé telle chose. Il y a toujours un groupe de fous qui mettra une bombe en commémoration de cet attentat. Alors il faudra que la France redevienne la France, c'est tout. Que les Français qui ont quand même fait la guerre de 14 et qui ont souffert, que ceux qui ont quand même fait la guerre de 39-45, je sais très bien que dans certains journaux, ils sont tous résistants, dans d'autres journaux, ils sont tous collabos. Bon, d'ailleurs, en les présentant comme collabos, hein, ça permet à certains jeunes de banlieue de dire, pendant que nos pères se battaient à casino, hein, bien, les femmes françaises couchaient avec les Allemands. Voilà comment eux, ils lisent l'histoire. Faut dire que l'histoire, on a envoyé monsieur Harlem Désir et monsieur Kofi Annan, hein, pour leur apprendre l'histoire de France. Eh bien, c'est vraiment du beau travail. Merci.
Merci, Roger. Quel souffle, il est incroyable, hein. Ouh là là.
Au sujet du terroriste, il y a quand même une décision de George Bush qui m'a rempli d'interrogations. Alors il a dit, nous interdirons l'entrée des États-Unis aux terroristes. Alors j'imagine la scène à l'aéroport de La Guardia à New York. Le guichetier des douanes qui regarde la fiche d'entrée aux États-Unis. Ouais. Donc vous appelez comment? Donc nom de famille Ben Laden, prénom Oussama, profession terroriste. Ah non, désolé, je peux pas vous laisser rentrer, monsieur. Non,
mais là, dans l'article dont j'ai parlé, que je demande à nos amis de lire, j'ai dit bien Le Monde, vendredi 26 octobre 2001, le FBI n'a pas réussi à faire parler les principaux suspects. Ils expliquent qu'ils leur ont proposé du fric et du travail. Si vous parlez, vous aurez du travail. Non, mais c'est marqué dedans, c'est pas moi qui l'invente. Si vous parlez, vous aurez du travail.
Hein? Vous savez, dans un pays où on trouve les comment appelle-t-on ça, les techniques de, enfin les, oui, les techniques ou les modes, les guides de pilotage en arabe dans les boîtes à gants, guide de pilotage des Boeing 747, et où on trouve le passeport du pirate au milieu des décombres d'une tour de 105 mètres de haut. Ouais.
L'avion a explosé, tour a implosé et on trouve le passeport du gars en bas.
Bon. Non, mais enfin. Donc s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire plein d'autres choses. À mon avis, ils peuvent identifier un terroriste rien qu'en regardant ses babouches.
Ouais. Voilà. Le problème, si on a encore 2 secondes pour en parler, je l'ai mis dans mon article, c'est quand même que ces gars ont été...
Et ton article est publié où?
Dans NH.
Dans National Hebdo.
Dans National Hebdo. Et cette semaine, j'ai un très gros truc, un gros article aussi dans Français d'abord. Hein. Et je dis justement que recruter des types plusieurs mois ou même plusieurs années à l'avance, hein, des types qui apparemment sont intelligents, ont fait des études, et ne sont pas des intégristes, puisque d'après le FBI, ils couraient les filles, ils allaient dans les boîtes de nuit, et tout ça, c'est pas tout à fait...
En tout cas, aujourd'hui, ils sont désintégrés.
C'est pas tout à fait la tendance Ben Laden, que ces mecs soient recrutés des mois ou des années à l'avance, hein, et qu'ils se décident un beau matin. Moi, lorsque j'ai voulu prendre le maquis en Algérie, j'avais 600 types qui avaient répondu présent. C'était le maquis. C'était pas aller se balancer dans une tour, hein. Il y avait 600 types en fiche, ils attendaient mon ordre. Bon. Alors, le jour où tout serait prêt, on prenait le maquis pour sauver l'Algérie française. Et au moment de le jour de partir, on était 6 sur 600. Et là, ils en ont recruté une dizaine et ils étaient présents le jour. Donc, il y a peut-être quand même du souci à se faire, hein, et il n'y a pas à prendre ça, à la rigolade contre ce genre d'individus. Eh bien, on ne peut résister que si on résiste réellement. Et on ne peut être respecté que si on est respectable.
Mais le rire est une bonne arme aussi de résistance. Merci, Roger. À bientôt. Tu reviens nous voir quand tu veux.
D'accord.
Il y a des messages?
Il y a un certain nombre de messages qui sont résumés par celui-là. Bon sang que ça fait du bien d'entendre Roger.
Voilà. C'est vrai que ça fait un certain temps quand même. À bientôt. On va écouter un tout petit bout de musique pour changer complètement d'ambiance.